chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, bienvenue à Savoir et Stéthoscope. Mon nom est Stécie Corriveau, conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers. Et aujourd'hui, je suis avec
Sophie Martin, conseillère en soins à la Direction des soins infirmiers. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet du leadership clinique au quotidien. Pour en discuter avec nous, nous accueillons Joannie Lucier, une gestionnaire clinique. Au quotidien, elle fait preuve d'engagement envers ses équipes. Elle est en mesure de mobiliser les personnes autour d'elle, ce qui contribue au climat de confiance puis augmente le sentiment d'appartenance. Rapidement, dans ses débuts professionnels, Joannie a été identifiée comme une leader positive dans son milieu. En quelques mois, elle a obtenu un poste de gestionnaire, puis elle a su rapidement rallier son équipe pour en faire, aujourd'hui, quelques années plus tard, une des plus soudées.
Bien, bonjour, Joannie.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui.
Bien, écoute, tu as été invitée dans ce balado-là parce que tu as été identifiée comme un modèle de rôle en termes de leadership clinique. Est-ce que tu voudrais commencer par nous expliquer un peu ton parcours professionnel?
Oui, bien sûr. Avant de me lancer dans ma deuxième carrière, j'ai été éducatrice spécialisée pendant plusieurs années. Mon expérience dans le domaine de la santé a commencé comme préposée aux bénéficiaires pendant que je faisais mes études en soins. Ensuite, j'ai été externe ECP. J'ai obtenu mon permis de l'ordre en octobre 2021. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler en courte et en longue durée, majoritairement en longue durée. J'ai été assistante sans avoir le poste. J'ai eu le titre par intérim, si on veut, d'assistante en longue durée. Ça a été très enrichissant. En février 2022, donc quand même rapidement après, j'ai eu la chance d'occuper un poste de gestion par intérim. Et en juillet de la même année, j'ai combiné mes fonctions pour gérer deux CHSLD dans ma région. Ça m'a permis de vraiment me plonger dans la gestion. Et en janvier 2023, j'ai officiellement obtenu un poste de gestionnaire en CHSLD. En ce moment, je suis impliquée dans un projet vraiment passionnant. Et c'est la gestion de la Maison des aînés qui va ouvrir ses portes en 2025. Parallèlement, je poursuis ma formation dans le programme de cadre en ascension. Et je travaille aussi à obtenir mon baccalauréat à l'Université de Montréal depuis peu.
Quand même, Joannie, c'est assez impressionnant là, comme parcours. Là.
Un parcours vraiment riche, hein?
Oui, puis très tôt aussi, là, devenir gestionnaire comme ça. C'est où, à quel endroit tu nous as parlé de la Maison des aînés et CHSLD, mais c'est dans quelle RLS exactement?
Au Granit, je travaille à la Mégantique.
Bien, parfait. Est-ce que, Sophie, on serait prête pour quoi de neuf à la DSI?
Ça m'intéresse de le savoir, oui.
Let's go!
Nouveauté, développement. Accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Aujourd'hui, on vous présente le nouveau guide d'accompagnement pour les proches aidants et les personnes en fin de vie qui est maintenant disponible. Il a été élaboré par la DSSCC en collaboration avec la Direction des soins infirmiers. Le guide cible la clientèle en soins palliatifs et de fin de vie et n'est pas relié à une trajectoire spécifique. Il vise à informer, à soutenir tous ceux et celles qui traversent cette étape afin de mieux les préparer et les soutenir dans leur choix. Plusieurs sujets relatifs aux soins palliatifs de fin de vie sont abordés, dont les options de milieu de fin de vie, des suggestions bienveillantes pour vivre cette étape puis préparer les enfants à la mort d'un proche, les signes et les symptômes en fin de vie et aussi les ressources liées au deuil. Certainement, l'arrivée de ce nouveau guide saura être un outil précieux pour l'accompagnement de l'usager et leur famille dans ce moment crucial empreint d'émotions. On n'est jamais vraiment prêt à accueillir la fin d'un proche.
Je ne sais pas pour vous, Sophie et Joannie, mais il me semble que le thème du leadership, on entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est un peu chacun sa sauce avec le leadership. Comme infirmière, on sait que c'est important, mais concrètement, c'est quoi le leadership? Eh bien, aujourd'hui, dans le balado, on va essayer de démystifier le thème du leadership clinique avec Joannie.
Pour toi, Joannie, c'est quoi ta vision du leadership clinique? On sait qu'il existe probablement là, plusieurs réponses différentes à cette question, un peu comme Stacy en parlait. On en entend pas mal parler hein, de ce sujet-là, mais toi, c'est quoi ta vision?
Pour moi, le leadership clinique, c'est une question de vision et d'engagement envers l'excellence des soins. C'est pas simplement une gestion des équipes ou des ressources. C'est de créer un environnement où ce que chaque membre de l'équipe est engagé et motivé et a envie de donner le meilleur de lui-même. Mon modèle de leadership s'inspire du leadership transformationnel qui met surtout l'accent sur l'inspiration, la motivation, l'engagement personnel. Un leader clinique doit être capable de visualiser puis de communiquer sa vision claire et ambitieuse pour la qualité des soins en soutenant et en développant les compétences de chacun dans l'équipe. Par exemple, pour moi, avoir un programme de formation pour chacun des membres de son équipe qui est adapté au milieu, d'avoir un rôle qui est dynamique dans le climat de travail.
Écoute, on connaît l'importance du leadership, là, surtout quand on fait référence à son pouvoir et son effet là, sur la qualité des soins. Mais au-delà de ça, de façon plus microscopique, là, pourquoi le leadership?
L'importance du leadership dans le domaine clinique, ça va au-delà du contrôle des processus. Un leadership qui est fort, ça contribue à une culture de sécurité, d'innovation et de collaboration, ce qui est crucial pour améliorer la qualité des soins et la satisfaction des patients. En termes plus micro, un bon leader clinique joue un rôle clé dans la gestion dynamique des équipes, la résolution de conflits, le maintien d'une atmosphère de travail positive. Ça influence directement la qualité des interactions entre les soignants et les patients.
Quand on pense à leadership, bien souvent on pense qu'il faut être gestionnaire pour pouvoir appliquer son leadership au quotidien. J'ai une petite idée là-dessus, puis je pense que cette affirmation-là, je ne suis pas certaine de savoir s'il faut vraiment être gestionnaire, si d'autres personnes ne peuvent pas l'appliquer justement au quotidien. Mais j'aimerais ça savoir, là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'il faut vraiment être gestionnaire pour pouvoir faire preuve de leadership clinique?
Non. Pour moi, tu n'as pas besoin d'être gestionnaire pour faire preuve de leadership. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que tu es gestionnaire que tu es automatiquement un leader. Le leadership, ça peut et en fait, ça doit se manifester à tous les niveaux d'une organisation. Par exemple, un infirmier, même s'il n'est pas gestionnaire, il va exercer un leadership en prenant des initiatives pour améliorer les protocoles de soins. Il va mentorer les nouveaux membres du personnel. Il va influencer positivement ses collègues à travers son attitude, les actions. Un médecin peut démontrer du leadership en collaborant de manière proactive avec d'autres disciplines, en proposant des innovations dans la pratique clinique. Un préposé aux bénéficiaires démontre du leadership en appliquant les nouvelles techniques qu'il apprend en formation. Quand il intervient positivement auprès des membres de son équipe, puis en montrant aussi de l'exemplarité. Puis j'ai même un petit exemple aussi. Nous, au Granit, on a une personne à la liste de rappel qui est incroyable, qui démontre un leadership phénoménal. Pour vrai, c'est une personne qui va aller chercher tellement d'idées, d'innovation, qui fait en sorte qu'on a des taux plus faibles de TSO, par exemple, parce qu'elle s'implique vraiment au travers les équipes. C'est quelqu'un qui a un leadership impressionnant.
Effectivement, le leadership aussi, souvent, c'est les autres qui vont le reconnaître en toi. Donc, c'est souvent, puis je pense que c'est un bel exemple, vous reconnaissez le leadership en cette personne-là là, qui fait preuve vraiment là, d'un dévouement puis qui fait preuve vraiment d'une approche là, qui se démarque là, dans sa pratique.
Tu sais, un poste de gestionnaire, c'est quelque chose qu'on te donne. Fait que, tu sais, dans les matrices du pouvoir, tu sais, c'est un pouvoir qu'on te donne de façon officielle. Tandis qu'un leader, selon moi, c'est plus quelque chose que tu prends aussi. Tu prends un leadership que tu vas redonner aux autres par la suite. Je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis?
Bien, tu as raison. Puis pour moi, un leader, c'est dans l'équipe, puis pas au-dessus de l'équipe. Il faut reconnaître que le leadership est souvent plus efficace quand il est exercé de manière distribuée et collaborative, où ce que tout le monde peut jouer une partie de son rôle de leader en fonction des compétences qu'il a, de son expertise et de son engagement.
Concrètement, là, si je suis une nouvelle infirmière qui arrive sur un département de soins, un milieu clinique, et je trouve que le climat de travail est un petit peu négatif, qu'est-ce que je peux faire pour influencer cette équipe-là? As-tu des exemples concrets que tu as appliqués dans tes équipes?
Oui, bien, premièrement, pour réussir à... Bien, il faut le comprendre, le climat négatif. Il faut comprendre les causes vraiment profondes de l'atmosphère. Par exemple, moi, ce que j'avais fait, puis mes ASI ont pu reprendre par la suite, c'est comme des tables rondes avec différents types d'emplois puis les corps de travail pour discuter de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Donc, chacun a la parole, chacun peut parler, puis comme ça, on a fait un plan d'action même pour être capable de sortir d'un certain climat négatif qu'on avait. Les cas cliniques ASI aussi, de prendre un dossier, par exemple, qui a été plus difficile, pas nécessairement mal, juste plus difficile, de le prendre ensemble entre ASI puis de regarder qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on a bien fait, sans jamais critiquer ou blâmer l'autre. C'est pas le but, c'est vraiment de s'améliorer chacun, d'être capable aussi de reconnaître ce que les autres ont fait, parce que c'est comme ça qu'on apprend finalement, c'est en se consultant entre nous. De la formation adaptée et évolutive, on le sait, on a la chance d'avoir des super programmes de formation dans l'installation. Donc, c'est vraiment de leur offrir, premièrement, puis de les mettre à jour. Nous, on a un tableau avec toutes les formations qu'on propose. puis les encourager à les faire, les libérer pour les faire, les mettre à jour annuellement, même parfois biannuellement.
Donc, c'est vraiment de responsabiliser vos équipes. Puis moi, ça me parle beaucoup. Là, c'est vraiment une approche de management renouvelée là, qui est vraiment de donner le pouvoir aux équipes d'apprendre de nos erreurs, d'être en amélioration continue.
Dans gestion de changement au quotidien aussi, c'est d'avoir des objectifs communs. Ça renforce la cohésion d'équipe. Par exemple, le sommeil des usagers, on en parle de plus en plus depuis quelques années. Nous, on vient de le faire, le virage sur, dans mon CHSLD vers le respect du sommeil. Ça a été quand même difficile les premières journées, mais rapidement, on se rend compte qu'il y a moins de cloches, les gens sont moins agressifs, il y a moins de médication au besoin qui est donnée pour des SCPD. Donc, puis les gens s'en rendent compte par eux-mêmes. On n'a même pas besoin de le faire à leur place, le constat. Ils le font.
Je m'excuse, je dois intervenir parce que ça fait quelques fois qu'on parle justement des fameuses routines et de rendre les soins plus humains. J'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de dire, que vous êtes adapté aux besoins de vos usagers en tant qu'équipe, puis vous avez pris ce leadership-là ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant.
Oui, bien, comme j'avais nommé au début, on s'en va vers une maison des aînés. Donc, on connaît très bien la philosophie qu'on va devoir appliquer. Et en équipe, on a décidé qu'on se lançait du mieux qu'on pouvait. C'est sûr qu'avec les installations matérielles, il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme dans une maison des aînés. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, comme le respect de l'humain qui est devant nous. Et aussi, dans ce qui est un climat négatif, c'est d'être capable de faire de la reconnaissance. La reconnaissance, bien, c'est pas juste de donner des bonbons. Je le fais. J'en donne. Mais c'est aussi, par exemple, j'avais un bel exemple d'un moment où ce que j'ai vu que mon climat s'est amélioré. C'est la première année, quand je suis arrivée aux journées des reconnaissances des employés, la journée des infirmières, infirmières auxiliaires préposées, j'ai fait des cartes personnalisées, écrites à la main pour chacun des employés. Je les ai remis. Ils ont super apprécié. L'année d'après, je me suis dit, on va amener ça à un autre niveau. Je leur ai demandé, eux aussi, de signer dans les cartes. Donc, les employés devaient tous signer dans les cartes. Puis à la fin, le moment que j'ai fait comme, oh mon Dieu, on a changé le climat, c'est quand j'ai vu les employés regarder dans les cartes des autres et demander aux collègues d'aller signer dans ceux qui avaient presque pas de signature parce qu'ils sont sur le quart de nuit, ils croisent pas tout le monde, ils sont sur le quart de soir, ils connaissent pas tout le monde, une infirmière qui vient juste de temps en temps. Donc là, j'ai fait comme, wow, OK, par eux-mêmes, il y avait un esprit d'équité puis de une belle reconnaissance entre eux parce que c'est aussi ça, la reconnaissance, puis c'est de entre les collègues aussi, pas juste le gestionnaire.
Ça me touche vraiment. Je pense que c'est aussi, on t'écoute puis ça nous inspire, puis c'est tellement important, cette reconnaissance-là. Puis je pense que t'es arrivé avec une proposition qui fait vraiment la différence. Puis des fois, on se dit la reconnaissance, bon, on pense aux moyens financiers, on n'en a pas nécessairement les moyens. Mais je pense que c'est accessible, c'est la pensée, c'est le petit geste qui fait vraiment une énorme différence. C'est très, très inspirant. Stacy, je pense que tu es d'accord avec moi.
Oui, parce que quand j'étais infirmière à l'urgence de Haute-Yamaska, c'est quelque chose qu'on faisait à tous les Noëls. En fait, il y avait une boîte mystère pour chaque corps de travail et on s'écrivait des mots. Donc, pour souligner à quel point on appréciait notre collègue, puis c'était vraiment tout le monde, là. C'est pas juste les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, les agentes administratives, tout le monde y contribuait. Et une année, on l'a pas fait et on l'a dit à notre chef de service que ça nous manquait et ils l'ont remis sur place parce que c'était un incontournable. Ça fait vraiment la différence.
Joannie, je pense aussi que tu as certains points cruciaux, là, peut-être qui font un petit résumé de tout ça, des choses importantes qu'il faudrait prendre en considération.
Oui, bien, je pourrais décliner ça en 5 points cruciaux. Premièrement, la communication ouverte. Deuxièmement, la valorisation des contributions. Troisièmement, le mentorat et le développement personnel. Quatrièmement, le modèle de comportement positif. Et cinquièmement, l'établissement d'objectifs communs. Bien, premièrement, pour moi, c'est la communication ouverte. C'est de mettre en place des réunions régulières avec où ce que chacun a la place pour parler, pour s'exprimer, de nommer ses idées aussi. Il y a les préoccupations, mais il y a aussi des très bonnes idées des gens qui sont sur le plancher. Et ça permet de créer un esprit de confiance, de transparence, puis aussi de collaboration. Ça permet l'autonomie décisionnelle. Et il y a la valorisation des contributions, c'est de reconnaître et célébrer les succès, même les plus petits. Et c'est quand chaque membre de l'équipe se sent apprécié, la motivation et l'attitude s'améliorent souvent, autant de collègues qu'en gestionnaires et employés. Comme je nommais, c'est pas juste du matériel, c'est pas juste on donne des cadeaux, c'est juste de passer à côté de quelqu'un et d'être capable de dire vraiment « Wow, j'ai vu ton intervention, c'était magnifique, bravo. » Puis ensuite, ça donne envie de le refaire, contrairement à juste... Comment dire ça? Pas juste taper sur la tête de la personne quand ils font pas comme il faut, mais le contraire. C'est vraiment ce bout-là qui est important, la discipline positive qu'on appelle. C'est vraiment d'amener les gens à avoir envie de faire mieux puis de donner de leur mieux. Le mentorat, le développement personnel, c'est d'offrir les postes d'opportunité de formation puis de développement pour aider les membres de l'équipe à s'améliorer, à se sentir plus confiants dans leur rôle. Parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile au début à implanter. Quand on voyait les gens faire de la formation, il y a des gens qui trouvaient ça plus difficile au début. Finalement, maintenant, ils adorent, ils en veulent de la formation. Ils aiment ça, connaître les nouveaux trucs, les nouvelles astuces. Ça leur permet de travailler différemment. Ça amène même moins de blessures aussi, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont dans ce niveau-là. C'est sûr, j'ai des grandes équipes de préposés aux bénéficiaires aussi. Le modèle de comportement positif, mais il faut, en tant que leader, démontrer le comportement qu'on souhaite voir chez les autres. Ça inclut la gestion de conflits de manière constructive, le maintien d'une attitude positive et le soutien aux collègues. C'est l'exemplarité dans le rôle de chacun, la modélisation positive. Puis l'établissement d'objectifs communs. C'est de fixer des objectifs clairs et motivants pour l'équipe qui peut renforcer le sentiment de cohésion puis de but commun.
Joanie, si je suis une infirmière et que j'aimerais ça un jour devenir gestionnaire, aurais-tu un conseil pour moi?
Oui, bien, premièrement, ça serait de le nommer à ton chef idéalement, parce qu'on a des programmes dans le CIUS, la relève des cadres, qui est une fois par année, on peut s'inscrire. Mais aussi, en le nommant, ça peut permettre que des belles discussions avec ton gestionnaire. On a énormément de documentation dans notre intranet pour permettre de progresser, d'apprendre ce que ça prend. Mais c'est de prendre sa place puis de démontrer le bon leadership. C'est facile, on vous voit, on le sait. Quand vous avez envie d'aller comme gestionnaire ou même comme assistante supérieure immédiate aussi, on dégage quelque chose, de le démontrer, d'être exemplaire, mais surtout d'être soi-même.
Je pense que tu viens vraiment aussi de démontrer que le gestionnaire, des fois, il nous apparaît lointain, mais tu sais, il est accessible. Puis tu viens d'humaniser beaucoup le rôle du gestionnaire en nous expliquant le leadership là aussi.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
La Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke offre maintenant un cours de gestion et leadership en milieu clinique au sein du parcours de formation intégrée pour le baccalauréat en sciences infirmières. Ce cours contribue à développer et exercer le leadership de l'infirmière afin de piloter efficacement des équipes de soins, d'exercer son influence afin d'améliorer les résultats pour la santé et de collaborer dans des situations complexes de soins, de gestion et de recherche en milieu clinique. Le cours aborde les notions suivantes: l'approche systémique de gestion et l'application en contexte clinique, les structures décisionnelles et consultatives du réseau de la santé, les milieux de travail sains, les stratégies pour influencer le changement organisationnel en contexte clinique et améliorer les résultats de santé, la coordination d'équipes de soins et finalement, la gestion de conflits en tant que personne responsable d'équipes de soins.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit
comme infirmière de décider de faire un test de cytologie cervicale ou communément appelé un test PAP à une cliente sans ordonnance en vertu de la loi sur la santé publique? La réponse est non. Plusieurs infirmières croient à tort que le test PAP s'inscrit au sein de cette loi, donnant ainsi ouverture à l'activité réservée d'initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de la loi sur la santé publique. Effectuer un test PAP s'inscrit plutôt dans l'activité réservée numéro 3 des infirmières, qui est d'effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs selon une ordonnance. La loi sur la santé publique prévoit l'initiation de mesures diagnostiques par les infirmières à des fins de dépistage qui visent des activités prévues au Programme national de santé publique et qui font l'objet de guides, protocoles ou autres cadres de référence officiellement approuvés par les autorités de santé publique. Citons en exemple le guide québécois de dépistage des ITSS qui permet aux infirmières de procéder aux tests de dépistage d'infections telles la gonorrhée, la chlamydia, syphilis, de même que l'hépatite B, C et le VIH. Elle peut aussi interpréter les résultats des analyses demandées. En présence d'un résultat positif, l'infirmière qui ne détient pas d'attestation de prescription doit alors référer le patient à un médecin, une IPS ou une infirmière habilitée à prescrire afin que la personne obtienne une ordonnance pour le traitement médicamenteux approprié.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
C'est quoi l'EDI? L'équité, la diversité et l'inclusion, plus communément appelée EDI, sont un ensemble de concepts. Voici un bref résumé de chacun de ces concepts. L'équité permet d'assurer que toutes les personnes ont accès aux mêmes opportunités en tenant compte de leurs différences et en éliminant les obstacles injustes. La diversité, c'est de représenter et de valoriser la variété des caractéristiques humaines, comme l'origine ethnique, le genre, l'orientation sexuelle, etc., au sein d'un groupe ou d'une organisation. Et l'inclusion, c'est le fait de créer un environnement où toutes les personnes se sentent accueillies, respectées et valorisées, permettant à chacun de contribuer pleinement. Comme le souligne Sarah Lemay, consultante en EDI, ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des réalités qui impactent la vie des gens chaque jour. Ces trois concepts sont essentiels pour construire des environnements justes et harmonieux où tout le monde peut s'épanouir.
Bien, merci beaucoup, Joanie. C'était très intéressant.
Et merci à vous de m'avoir invité.
Dans le prochain épisode, nous parlerons de c'est quoi la pratique infirmière en 2024-2025? Est-ce que c'est juste de parler de nous comme les anges gardiens, des êtres de dévotion et de compassion?
Oh là là! Donc, c'était Stacy Corriveau
et Sophie Martin. Et c'est ce qui conclut notre épisode du balado Savoir et stéthoscope.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et stéthoscope.